Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, pour cette émission Terre solidaire, j'ai la chance de rencontrer Marie-Colette Isabé. Alors Marie-Colette, d'abord merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Radio Grand Ciel, mais aussi merci de bien vouloir de partager votre expérience africaine. Vous étiez éducatrice spécialisée, vous voilà transplantée en Afrique.
Je suis éducatrice spécialisée de métier. J'ai choisi ce métier en voyant la mauvaise considération que des personnes adultes ou jeunes, déficientes mentales, subissaient dans mon village, et puis qu'elles soient plus incluses dans la société. Donc j'ai fait ce métier et j'ai rencontré des prêtres rédemptoristes dans ma ville, à Baume-les-Dames. L'évêque de Vadangourma souhaitait que dans son diocèse, quelqu'un vienne prendre en charge des personnes handicapées physiques, parce que c'est celles que l'on voit à cause de la polio, des traumatismes, des brûlures, des accidents. Les prêtres rédemptoristes et puis des religieuses avaient le souci quand même, par exemple, de procurer des béquilles ou bien des fauteuils roulants à des personnes adultes handicapées motrices pour qu'elles puissent aller à l'école ou bien se déplacer tout simplement.
Donc là, vous êtes intéressée, vous dites, mais en fait, on ne peut pas aller comme ça, hop, faire le saut de France en Afrique.
Donc il faut... Alors, à Besançon, il y avait un prêtre qui s'occupait de la coopération missionnaire. Il m'a orientée vers le service de coopération au développement de Lyon, 42 Montée Saint-Barthélemy, je le précise, parce que le siège était dans la maison où Pauline Jaricot a vécu ces dernières années. Alors pour moi, c'était très important que Pauline Jaricot, qui a créé la propagation de la foi, ce qui est devenu les œuvres pontificales missionnaires actuellement. Bon, elle avait une attitude très sociale vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis des gens qui faisaient le tissage dans les usines de son père, par exemple, qui était patron. Et donc j'ai pris contact avec ce VCD qui m'a fait faire un dossier très très complet. Et j'étais déjà engagée dans une association et ça m'a mis dans le bain pour connaître davantage ce qui se faisait au Burkina.
Donc vous avez eu à la fois la formation par le service de développement de Lyon et puis en même temps la rencontre avec la personne qui vous a dit « je peux vous accueillir chez moi ».
Voilà,
si j'ose dire.
Voilà. Et c'était avec un contrat tripartite, donc l'évêque, le SCD et moi. Et grâce à ce contrat, j'ai obtenu le statut de volontaire pour le développement reconnu par l'État français. L'évêque a fait avec moi un dossier de demande de soutien au CCFD par l'intermédiaire de VEA, Vivre l'Évangile aujourd'hui. Je faisais partie de VEA, je connaissais aussi les responsables du CCFD de Besançon. Alors le dossier a été accepté et nous avons reçu la première finance au mois de juin 85. De mon côté, avec l'ADAPI, qui était mon employeur, je travaillais donc dans un institut médico-éducatif, j'ai obtenu un an de congé sabbatique. Mais ensuite, depuis Vadangourma, j'ai donné ma démission pour rester au Burkina, où j'avais établi de bonnes relations avec le directeur régional de la santé, avec le médecin pédiatre. Oui, j'ai commencé toute seule à connaître les familles grâce à l'infirmière française qui était en brousse. J'ai travaillé avec elle pendant un mois. Elle m'a fait connaître les gens, les personnes, les enfants handicapés. Voilà, le premier petit garçon que j'ai connu dès la première semaine, c'était un petit garçon qui avait la trisomie 21, un petit peul, Oumarou. J'ai envoyé en formation une jeune femme, Amélie, pour faire la formation d'aide kinésithérapeute, formation donnée à Ouagadougou par des Français qui avaient mis en place cette formation. Ensuite, deux garçons, Jean-Roland et Alexis. Ensuite, Barnabé, voilà, qui est toujours donc au service de rééducation, encore actuellement là.
Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ce n'est pas vous qui faites simplement, mais aussi vous mettez en route des gens pour qu'ils fassent.
Oui, tout à fait. Je travaillais beaucoup avec les familles également. On a appelé ça rééducation à base communautaire parce que mon but, c'était d'inclure mieux cette personne qui est handicapée pour qu'elle retrouve une dignité, qu'elle soit bien considérée. par exemple. C'est arrivé très souvent, ça. La grand-mère était toute seule avec les enfants. Donc, j'expliquais, par exemple, pour une petite fille, Palamanga, qui était épileptique. J'ai emmené cette Palamanga à l'hôpital sur ma mobylette. Et puis les dames, elles me disaient, mais Marie-Colette, tu vas attraper la maladie. Pourquoi tu emmènes Palamanga à l'hôpital? Alors j'expliquais, non, je n'attraperai pas la maladie.
Parce qu'ils pensaient que la maladie s'attrapait comme ça.
Oui, ça se donne.
Aïe, aïe, aïe.
Oui, il y a beaucoup.
Donc il y a tout un travail aussi physique, de rééducation, mais aussi d'échanges, d'explications.
Oui, beaucoup. Il fallait que je trouve des moyens, des mots simples, des moyens. Il fallait avoir beaucoup d'intuition. Et puis avec les gestes, avec la patience. Voilà, s'asseoir. C'est pas seulement se mettre sur une chaise, mais ça veut dire rester dans la famille pour écouter, accompagner, expliquer.
Vous écoutez Radio Grand Ciel.
Radio Grand Ciel.
Terre solidaire.
La radio qui rapproche les hommes.
Et vous avez aussi mis en place des relations avec d'autres spécialités. Racontez-moi un peu cette mise en réseau.
Oui, donc j'ai su par les missionnaires que par exemple à Bougandé, à 2h30 de route, il y avait le docteur Condamine de Normandie qui venait pendant 15 jours au mois de janvier avec un anesthésiste, une infirmière, enfin voilà, c'était une équipe pour venir opérer spécialement les gens qui ont eu la polio aux membres inférieurs. Alors donc, moi, je faisais partir où j'emmenais les gens, donc dans cet hôpital de Bougandé, et ensuite je les orientais à Coupella, donc il faut redescendre au sud, où il y avait un kinésithérapeute français qui faisait donc la rééducation avec un orthopédiste burkinabé qui avait été formé. Alors donc, les familles devaient accompagner l'enfant au centre de rééducation de Coupella. Alors il fallait beaucoup expliquer qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi, et dire que l'enfant, après avoir été opéré, rééduqué, il pouvait marcher, être debout et devenir capable de travailler, d'aller à l'école et de gagner sa vie. Le mot handicapé ne se dit pas au Burkina, hein, c'est le mot incapable. Mais moi je démontrais, voilà, par des exemples, parce que j'avais aussi acheté des diapositives dans un centre de formation à Bobo-Dioulasso qui montrait, par exemple, la prévention, laver les mangues, se laver les mains, ne pas faire ses besoins n'importe où.
Voilà. C'était en même temps tout un travail d'éducation et
de prévention. Oui. Et ben c'est pareil pour parler de l'eau potable. Et voilà, j'avais des liens bien avec les instituteurs. Pierre Lompeau, par exemple. Alors lui, il me disait qu'il prenait 2 verres. Un verre d'eau qui vient du marigot et puis un verre d'eau qui a été purifiée. Alors les gens, ils voyaient bien qu'il y avait plein de petits verres, plein de petites choses là, qui voyageaient dans le verre d'eau du marigot. Et puis dans l'eau purifiée, il n'y avait rien. Mais il y en a qui disaient, ben moi je préfère l'eau du marigot parce qu'elle a du goût. Alors il expliquait que toutes ces petites choses qui voyagent dans l'eau, c'était des microbes, hein, et qu'il valait mieux ne pas la boire.
Il valait mieux boire l'eau transparente.
Transparente.
Qui n'a pas de goût.
Il fallait faire en même temps la prévention, le dépistage, la rééducation, et puis petit à petit aussi l'apprentissage, puis mettre les enfants à l'école. Alors par exemple pour un enfant qui avait une infirmité motrice cérébrale, eh bien, je suis allée trouver le directeur, même l'inspecteur, le directeur, etc., à l'école. Et puis, il me disait, mais il y a tellement d'enfants, il n'y a pas assez de place dans les classes. Hein, ils peuvent être jusqu'à 80, même 100 dans une classe. Alors, l'instituteur ne pourra pas s'occuper de cet enfant IMC spécialement. Voilà, j'avais des relations, puis le plus possible pour insérer les
pour
enfants.
Pour insérer, mettre les gens...
Oui.
Aussi bien le directeur, l'école...
Oui, l'instituteur, voilà. Et puis aussi des actions avec le personnel de la santé. Parce que je m'étais aperçue que les infirmiers, personne n'a une formation en kinésithérapie, par exemple, vous voyez. Alors, avec le directeur régional de la santé, on avait mis en place, il avait été d'accord, pour envoyer dans notre service des stagiaires infirmiers, donc pendant une semaine.
Pour apprendre quelques
gestes. Pour voir ce que l'aide kinésithérapeute pouvaient faire des massages, de la rééducation à ceux qui ont un handicap moteur.
Marie-Colette, je vais vous demander quel effet ça vous fait alors quand en France on se dit mais c'est impossible, enfin il faut tel diplôme pour faire tel massage, alors que là vous envoyez les gens en formation 8 jours, vous leur apprenez les gestes et puis il y a des choses qui se débloquent pour un certain nombre de personnes.
Oui, moi j'ai appris là-bas, j'ai vu le pouvoir de nos mains.
Le pouvoir des mains.
Oui, oui, ça c'est important. Tout le monde peut faire avec de l'intuition, avec de la bonne volonté, avec de l'amour. Voilà, et je pense que...
Pas simplement la technique.
Pas seulement la technique.
Alors, il faut le geste technique, mais aussi cette dose d'amour. C'est important pour vous, parce que j'ai compris que finalement, si vous étiez partie, c'était au nom de l'Évangile, c'est ce que vous nous aviez dit tout à l'heure. Et dans ce cheminement, l'église locale, vous suivez aussi?
Aller dans chaque petite ville, mais j'étais logée, accueillie par les prêtres ou les religieuses.
Donc il y avait vraiment aussi tout un tissu de relations qui se fait.
Et c'est eux qui me facilitaient le contact avec les infirmiers, parce qu'ils se connaissaient. Dans un village où il y a une mission, forcément, ils connaissent l'infirmier, ils connaissent le personnel médical. Et puis ils connaissent beaucoup de familles qui ont des gens handicapés dans leur famille. Alors c'était bien facilité pour moi.
D'accord, donc simplement, en fait, on ne travaille pas tout seul.
Non, vraiment pas.
On travaille toujours en relation.
Ah oui, vraiment.
Donc ce que je peux retenir de votre expérience, c'est ça. C'est l'envie, le sentir que l'esprit vous a guidé vers ce travail, mais en même temps, la relation aux autres, la relation aux familles, le souci de tenir compte de la culture du pays aussi.
Oui, oui. Quand j'allais dans un village, je s'asseoir et rencontrer le chef du village. Il faut vraiment s'asseoir et le regarder, avoir des gestes très respectueux.
Vous êtes resté combien de temps là-bas ?
15 ans.
15 ans. Et après, comment on fait ?
Moi, je pensais être remplacée. Joséphine Ouedraogo, qui était venue en France, à Toulouse, faire une formation d'aide-soignante. Mm-hmm. Alors donc, elle est venue avec moi pendant 6 mois pour voir ce que nous faisions, donc dans le service de réhabilitation pour les personnes à handicap physique et mental. Donc, Sœur Joséphine m'a remplacée. Une dame, Fatih, apprend le langage gestuel pour les sourds. Voilà, petit à petit, il fallait qu'elle s'apprivoise aussi, qu'il y ait un apprivoisement mutuel entre les personnes, les familles, et puis elle. Oui, oui.
Donc, aussi un apprentissage, et un apprentissage de, en fait, fait de... d'observation mutuelle, de respect mutuel.
Oui, et puis, petit à petit, bon, elle a bataillé, qu'elle m'a dit, pour que le diocèse garde le service de réhabilitation. Alors, elle m'a dit qu'elle avait vraiment tenu à ce que le service dure. Le mot existe, durer. Hein. Et alors, il a été reconnu comme œuvre sociale de développement du diocèse. L'aide kinésithérapeute que moi j'avais envoyée en formation, il y est toujours.
Eh bien, je peux vous dire merci au nom des auditeurs de Radio Grand Ciel d'entendre quelqu'un qui ne baisse pas les bras, mais il y a beaucoup de gens qui finalement font plein de choses et on ne le sait pas. Et merci à Radio Grand Ciel de nous le faire savoir et merci à vous de bien vouloir le dire.
Et je dis aussi, n'ayez pas peur de vous engager, de vous investir, de croire dans vos capacités. J'ai beaucoup aimé quand Barack Obama avait ce slogan « Yes, you can ». Oui, nous pouvons.